Alors, on va parler avec Gilles Proulx, parce qu'il vient d'écrire un livre sur les femmes formidables qui ont marqué notre histoire et qui sont malheureusement trop méconnues. Donc, je vous le dis, là, il y a vraiment des exemples vraiment formidables. Donc, on va apprendre des belles choses. On va vous parler de cette éclosion de COVID dans un hôpital spécialisé de Québec, un hôpital où on fait notamment la transplantation du cœur. C'est un peu l'Institut de cardiologie, mais de Québec. Ça s'appelle l'Institut de cardiologie de pneumologie de Québec. Et ça nous permet de parler du caractère foudroyant du virus lorsqu'il s'agit de personnes qui ont subi une transplantation cardiaque. Je vais vous dire, là, c'est pas drôle. Alors, on va parler de cela. On va aussi parler de politique américaine. On va faire un peu le point sur ce qui s'est passé en fin de semaine. Je vais vous dire, le New York Post, qui est un tabloïd new-yorkais qui appuie ouvertement Trump, a sorti une méchante cochonnerie sur le fils de Joe Biden. On va en parler avec Valérie Beaudoin et Luc Lavoie, que je m'en vais rejoindre de ce pas.
Salut, Bernard.
Alors, on parle un peu de COVID, évidemment. Tu nous fais un petit peu ton tour du monde. Veux-tu qu'on commence avec le rassemblement des 10 000 acidiques pour un mariage à New York?
Ouais, le mariage n'a pas eu lieu, heureusement.
10 000,
oui. Ça a l'air que ça, quand tu fais un mariage, Bernard, c'est un mariage.
T'es méchant party, ça prend une grosse synagogue pour en accommoder 10 000?
Peut-être qu'il était au Madison Square Garden, je ne sais pas. Mais c'est la même communauté, hein, les hassidiques de New York et ceux de Montréal, ils sont en étroite liaison constamment.
Oui, oui.
Et il est fort possible qu'il y aurait eu des Montréalais qui auraient été dans ces 10 000-là, mais heureusement, la police est intervenue et ça n'a pas eu lieu. Mais il y a des gens qui ont de la difficulté à comprendre que on peut pas faire ça. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Et
alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les autorités sont intervenues, puis ils ont réussi à faire annuler l'événement?
Oui. Ils ont parlé avec les dirigeants. Ils ont dit, vous annulez ça, ou alors on va vous empêcher de le tenir. En gros, là, c'est ce qui est arrivé.
Mais ce qui est troublant, Luc, on a vu la même chose... la semaine passée ou la semaine d'avant, c'est qu'on les leaders de la communauté disent « Hey, nous autres, là, on veut que les consignes soient respectées, mais on s'excuse, on est vraiment désolés. » C'est comme si ils disent quasiment « Ça s'est organisé dans notre dos, puis on n'avait pas de contrôle. » Honnêtement, là, moi, j'ai un petit peu de misère à
croire. C'est dur à croire. C'est très dur à croire parce que cette communauté-là a, entre autres, particularité de suivre sa hiérarchie.
Et voilà.
Je veux dire, je pense pas qu'ils... Non, moi, je les crois pas quand ils disent ça, mais pas du tout, du tout.
Bon, d'accord.
Irresponsable. Alors, revenons à la COVID elle-même.
Oui.
Tu sais que depuis ce matin, on a franchi le cap des 40 millions de cas dans le monde. Et moi, je trouve qu'un chiffre, on veut pas trop aller avec des chiffres, là, mais il y en a un qui est assez frappant. Plus de 2,5 millions de cas ont été déclarés ces 7 derniers jours. Le bilan le plus élevé sur une semaine depuis le début de la pandémie, c'est assez incroyable. Hein?
2,5 millions,
c'est incroyable. Moi, je...
Enfin. C'est parce que ce qui arrive, c'est que ça devient exponentiel. Mais oui, continue.
Alors, je pense qu'on peut jeter un coup d'œil à ceux qui sont en tête de ceux qui souffrent le plus. Ça demeure les États-Unis avec l'Inde, avec l'Iran, avec le Brésil. Alors... en gros, là, le confinement reprend au Pays de Galles, couvre-feu, bar fermé en Belgique, des nouvelles restrictions en Suisse qui, jusqu'à maintenant, avaient été largement épargnées. Voilà, en France, ben, c'est le couvre-feu qui est en place. On parle aussi du fait, et je trouve ça intéressant, que la pandémie de COVID-19 a eu des répercussions majeures sur les flux migratoires au premier semestre, avec une diminution du nombre de nouveaux permis de séjour délivrés dans l'OCDE de 46%.
Alors, ceux qui s'inquiétaient... On n'est pas vraiment surpris, hein?
On n'est pas surpris, mais j'y avais pas pensé à ça. Y avais-tu pensé? Évidemment, oui, les frontières sont fermées.
C'est ça. Puis les avions sont vides. Fait que là, tu te dis, à un moment donné, l'immigration va s'en ressentir. Moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est combien de temps ça va prendre avant qu'on retrouve une certaine normalité au niveau de l'immigration. J'ai hâte de voir, moi.
J'ai hâte de voir, moi aussi. Mais on dirait là, qu'à mesure que ça avance, les populations un peu partout en Europe, en particulier ici, sont de plus en plus rébarbatives à ces confinements, puis à ces mesures, puis à ces consignes, puis à...
Oui, tu as raison de
écœur
dire
en
que
titre
les...
très, très élevé, oui, oui. En France, oui. En particulier, ça gueule très, très, très fort.
Oui, mais ils gueulent tout le temps, les Français, remarque.
Oui,
là,
c'est vrai,
c'est
mais cette fois-ci,
nature,
là...
Oui, oui.
Puis en plus, hier, les Français, compte tenu du fait qu'ils sont ceux qui goûtent le plus présentement, ils font une manif, là, je la comprends, la manif, là, c'était pour la victime de cette espèce de barbare d'islamiste, là.
Oui.
Mais ça fait rien, mais ce que tu mets 50, 60, 70, 10 000 personnes dans la rue, comme ils ont fait, pas sûr que c'est idéal pour combattre la pandémie.
On est sûr que ça ne l'est pas, mais ouais. Mais à un moment donné, la colère, dans ce cas-ci, la colère était tellement grande que les gens ont oublié le danger, là. Luc, je veux juste revenir au commentaire que tu as fait sur le fait que les gens sont écœurés. T'as bien raison, ils sont écœurés. Mais je me pose la question, penses-tu... Puis là, on s'en est pas parlé, là. On discute, là, on fait ça souvent, on jase ses ondes, là, puis on jase sans filet, là. Mais penses-tu qu'à la suite de la COVID, il va y avoir une tentation chez plusieurs de nos concitoyens pour garder une certaine fermeture des frontières. En d'autres mots, est-ce que ça pourrait être la fin de la mondialisation ou d'une certaine mondialisation?
Une mondialisation sans limite, oui. Voilà.
Ouais, sans limite, exactement. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une espèce de repli puis une valorisation des frontières à nouveau, puis...
Je le pense, oui, fortement. Je le pense fortement.
Un certain protectionnisme.
De toute façon, en Europe, ça avait déjà commencé. Tu sais, les fameux accords de Schengen qui font qu'il n'y a pas de frontières entre les pays européens sont contestés, ces accords-là. Mais en fait, on peut expliquer le Brexit par ça, Bernard.
Un retour à un certain nationalisme.
Un retour à un certain nationalisme et aussi une réalisation que cette construction qu'on appelle la mondialisation, ça pouvait être extrêmement attrayant et ça l'était, et c'était même inévitable et incontournable. Mais à un moment donné, on vient juste de réaliser qu'on fait plus rien nous-mêmes. Les gens viennent de se réveiller, on a les masques qu'on n'avait pas parce qu'on n'en fabrique plus ici. Puis tel autre type d'équipement, on n'en fabrique plus ici, puis il n'y a plus du...
Comme si les gens réalisaient que la mondialisation est allée trop loin.
Elle est peut-être allée trop loin et surtout nous a rendus vulnérables, très vulnérables. Parce qu'oublie pas qu'on est en train de voir devant nous la mise en scène, la mise en place d'une nouvelle guerre froide. Celle-là va mesurer les États-Unis à la Chine.
Oui.
Alors la Chine, là, c'est eux. On est dépendant d'eux. C'est incroyable le nombre de produits pour lesquels on est dépendant d'eux. On a laissé aller notre industrie manufacturière là-bas en se disant « Oui, ils travaillent à 5 piastres par jour. » Enfin, mais c'est fini ce temps-là. Là. La Chine est rendue un géant dans le domaine manufacturier, dans le domaine technologique.
Mais on continue à dépendre beaucoup d'eux pour des biens de consommation qu'on paye pas cher.
Ben évidemment.
Chez Dollarama puis chez Walmart, t'as beaucoup de Made in China encore. Ouais, et là, dans ça, le fond, mais... le produit de la crise, ça va être de se dire « Il y a certains produits qu'on paye pas cher. » qu'on produisait plus, qui étaient produits en Chine, si on décide de les rapatrier chez nous pour ne plus dépendre des Chinois, il va falloir accepter de payer plus cher pour ces produits-là, mon ami.
Ouais, ben c'est là que je pense que le rêve va s'arrêter, Bernard. Les gens sont pas prêts à payer plus cher. Et je pense pas, honnêtement, que la mondialisation va stopper. La mondialisation, elle est née pas d'une idéologie, elle est née de la technologie.
Elle est née de la volonté de payer moins cher.
Ça a toujours été là.
Maximiser le pouvoir d'achat.
Mais ça a toujours été le cas, sauf que soudainement, ça devenait possible. Ça devenait possible par la technologie, ça devenait possible par les transports modernes, ça devenait possible.
Oui, oui, oui.
Alors là, on se pose la question, est-ce qu'on devrait pas au moins déterminer un certain nombre de choses qu'on devrait produire localement parce qu'on veut plus jamais se retrouver dans la situation où on est obligé de mentir à la population en leur disant « Le masque, c'est pas bien important, vous savez, parce que ça pourrait donner un faux sentiment de sécurité. » Alors qu'on l'a sait, la vérité, ils ont utilisé exactement la même stratégie en France pour exactement les mêmes raisons, à savoir qu'il n'y en avait pas de masque.
Ils voulaient pas qu'on le demande parce qu'il n'y en avait pas à
fournir. S'il avait dit, imaginons le docteur Arruda, là, au moment où la question lui est posée, il dit « Ah, ben c'est bon pour combattre la pandémie. En fait, on devrait considérer ça. Mais si les gens se seraient rués dans les magasins puis ils n'avaient pas. Puis au moment où Arruda disait ça, moi je m'en souviens très bien, je suis allé pour m'acheter des masques. J'ai fait une douzaine de places à Montréal. Personne n'en avait. Personne. Ultimement, c'est une de nos auditrices qui m'a envoyé des masques. Mes premiers masques ont été fabriqués par une dame de Saint-Jean-sur-Richelieu, Madame Boulris. Je la remercie encore une fois. Mais on s'est rendu compte qu'on n'est pas capable de se fier à nous-mêmes pour se sortir du trouble de ce type-là. On est complètement dépendant. Toi, tu as parlé de ce qu'on trouve facilement chez Dollarama, mais souvenons-nous d'une chose, de ton appareil à Apple dans tes mains, il est fait à 100% en Chine. Puis c'est vrai pour la plupart des téléphones intelligents.
Savais-tu ce que Costco veut dire? Il y a un auditeur, Dave, qui m'écrit ça. Sais-tu ce que ça veut dire, Costco?
Non, vas-y.
Chinese Offshore Shipping Transportation Company Owned. Costco. Chinese Offshore Shipping Transportation Company Owned. C'est ça que ça veut dire, Costco?
Je ne savais pas ça.
Ben moi non plus, puis je viens de le vérifier sur l'ordi, puis sur Internet. Puis c'est ça que ça veut dire, mon ami.
Et pendant, tu vois, les dernières nouvelles, parce que ça revient à la pandémie, la Chine aujourd'hui, elle n'a pas son taux de croissance habituel qui se tenait à 8, 9, 10 %, mais ils sont à 4,5 % en croissance à l'heure actuelle. Alors, tu vois, tout ça, le virus est venu de la Chine. Le virus s'est répandu. La Chine l'a mieux combattu que les autres. La Chine, ensuite, a fourni l'équipement aux autres pour qu'ils puissent le combattre à leur tour. Et pendant ce temps-là, ils continuent de se promener un peu partout sur la planète. Ils profitent du vide créé par la pandémie et par la présence à la Maison-Blanche d'un loufoque personnage pour accélérer leur ambition hégémonique en achetant tout ce qu'ils peuvent acheter en Afrique, littéralement le territoire, en faisant la même chose ici. Ils l'ont fait au Canada, ils ont acheté des compagnies d'énergie et tout. Ils le font partout dans le monde. Et pendant ce temps-là, ben nous autres, on a notre loufoque à Maison-Blanche qui gueule puis qui les accuse.
Mais on va en parler de ça un peu plus tard. On va en parler un peu plus ça de Luc. Alors, écoute, on s'arrête là-dessus, Luc. OK, ça va nous faire un petit peu plus de temps avec Valérie tout à l'heure pour parler de politique américaine. On se reparle?
À tantôt.
À tantôt. Après la pause, on va parler avec Gilles Proulx. Gilles Proulx, donc, qui vient d'écrire un livre sur les femmes, je dirais les héroïnes de notre histoire. Voilà, les héroïnes de notre histoire après la pause.